marque-page.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. La suggestion de lecture du jour est une pièce de théâtre du répertoire français. Toutefois, son intrigue ne se déroule pas en France, mais dans un pays situé dans l'archipel des Grandes Antilles. Il s'agit d'Haïti. Généralement, Haïti est évoqué dans les médias pour son instabilité politique, ainsi que sa crise économique et démographique qui y ont entraîné depuis maintenant plusieurs décennies une violence extrême. La pièce de théâtre que j'ai choisie ne s'inscrit pas dans ce contexte actuel. Elle se déroule plutôt au XIXe siècle, siècle majeur dans l'histoire prestigieuse de ce petit pays. Pour ceux qui l'ignorent, Haïti s'appelait autrefois Saint-Domingue. Elle était une colonie française, la plus riche de toutes. Si riche que la France a préféré abandonner le Canada plutôt que la céder aux Anglais dans le cadre du traité de Paris qui mit fin à la guerre de 7 ans en 1763. À cet égard, à la veille de la Révolution française, Saint-Domingue produit les trois quarts du sucre fourni par les colonies françaises. En 1789, la Révolution française éclate. Ses idéaux de liberté et d'égalité atteignent les rives de Saint-Domingue, où l'esclavage des Noirs est pratiqué. Saint-Domingue s'engage à son tour dans sa propre révolution. Les Noirs bataillent pour obtenir l'abolition de l'esclavage et leur égalité avec les mulâtres, c'est-à-dire les Métis, et les Blancs. Or, les mulâtres et les Blancs ne partagent pas cet objectif. Les conflits entre Noirs, mulâtres et Blancs s'intensifient lorsque l'esclavage est aboli en 1792. Mais ces conflits dégénèrent lorsque Napoléon décide de le rétablir en 1802. La révolution haïtienne évolue alors vers la conquête de l'indépendance. Au terme de violents combats, l'indépendance est proclamée le 1er janvier 1804. Saint-Domingue prend alors le nom de Haïti et devient la première république noire de l'histoire. Les figures incontournables de cette période sont le célèbre Toussaint Louverture, ainsi que Jean-Jacques Dessalines, deux anciens esclaves devenus militaires ayant pris la tête des combats contre les Français. Un troisième personnage, beaucoup moins connu, est aussi considéré comme un père fondateur de la nation haïtienne. Il s'agit de Henri Christophe. Henri Christophe était né esclave. Il parvint à être affranchi en rejoignant l'armée. Il combattit successivement pendant la guerre d'indépendance américaine et pendant la révolution haïtienne aux côtés de Toussaint Louverture puis de Jean-Jacques Dessalines. Après la proclamation de l'indépendance en 1804, Jean-Jacques Dessalines prend les pleins pouvoirs et se proclame empereur sous le nom de Jacques Ier. Jacques Ier est un souverain violent et devient rapidement impopulaire auprès des Haïtiens. Il est finalement assassiné en 1806 dans une embuscade menée par Alexandre Pétion, un autre officier militaire ayant combattu pendant la Révolution haïtienne. La République est rétablie et Alexandre Pétion prend la présidence du Sénat. Des divergences d'ordre idéologique opposent Pétion à Henri Christophe. Henri Christophe décide alors de se retirer au nord d'Haïti, où il forme un gouvernement séparatiste. Il s'y proclame président de la République. Après avoir établi une certaine stabilité sur les territoires qu'il contrôle, il instaure finalement une monarchie et devient roi sous le nom de Henri Ier en 1811. Cet épisode est le point de départ de la pièce de théâtre que j'ai choisi de vous présenter. Elle s'intitule « La tragédie du roi Christophe » et a été écrite par Aimé Césaire. Sa première représentation eut lieu en 1964. La pièce s'ouvre symboliquement sur un combat de coq, activité encore très populaire aux Antilles. Les coqs en lice se nomment Christophe et Pétion. La scène suivante met en scène Alexandre Pétion et Henri Christophe. Pétion vient proposer à Christophe la présidence de la République. Christophe refuse en accusant Pétion de vouloir lui attribuer une fonction représentative sans aucun pouvoir. Il décide alors de s'autoproclamer roi d'Haïti et entraîne une guerre civile entre ses partisans et ceux de Pétion. En parallèle, Christophe s'emploie à structurer son nouveau royaume. Il crée une nouvelle noblesse et instaure une forme de travail forcé chez les paysans afin de redévelopper l'économie. Tout au long de la pièce, Christophe tente d'adopter une position de plus en plus autoritaire et dictatoriale. Bien évidemment, cette évolution n'est pas du goût de tous. Si vous souhaitez connaître la suite de l'intrigue, je vous donne rendez-vous à la BU de Bordeaux, où cette pièce peut être empruntée. Elle est disponible à la Bibliothèque de Lettres et Sciences Humaines de Pessac. En attendant de vous la procurer, pourquoi je vous recommande la lecture de cette pièce? Déjà, elle est une excellente initiation à un épisode de l'histoire d'Haïti, absolument méconnu du grand public, et dont j'ai essayé de vous donner quelques éléments en début de chronique. Lydie Dascali annonce une mise en scène grandiose, avec une grande variété de décors et de personnages. Une mise en scène à la hauteur de cette période qui a bouleversé le 19e siècle. Ensuite, cette pièce pose la difficulté pour un peuple d'anciens colonisés de se construire à travers un État indépendant. Cette problématique était d'autant plus forte en 1964 qu'à cette période, les colonies françaises du continent africain sont engagées vers le chemin de l'indépendance. D'emblée, le titre choisi par Aimé Césaire pour sa pièce indique que le règne du roi Christophe est voué à l'échec. En effet, une incompréhension s'instaure entre le peuple haïtien et Christophe. Ce dernier prend le pouvoir alors que l'île vient de s'affranchir de la tutelle coloniale française et de conquérir son indépendance. Christophe considère alors le peuple haïtien comme un enfant qu'il conviendrait d'éduquer plutôt que comme un peuple triomphant qu'il conviendrait d'accompagner dans l'exercice de sa liberté durement acquise. Les choix de Christophe témoignent de son incapacité à se détacher des références politiques, économiques et culturelles du colonisateur français. À cet égard, il impose le travail forcé, qui rappelle à ses sujets le temps de l'esclavage. En outre, Christophe estime que seul le travail acharné permettra aux Haïtiens de prouver qu'ils peuvent faire partie du concert des nations. En ce sens, il partage l'opinion des anciens colons blancs qui ne voyant les Haïtiens que des individus inférieurs dont ils ne considéraient que la force de travail potentielle au détriment de leurs conditions humaines. L'instauration d'une noblesse sur le modèle européen témoigne aussi de cette difficulté à se détacher du cadre de pensée des colons. Elle donne lieu à des épisodes résolument drôles, car complètement décalés. L'humour est d'ailleurs, à mon sens, l'un des points forts de cette pièce. Christophe comprend beaucoup trop tard qu'un peuple ne peut pas se construire en imitant un autre peuple, mais doit au contraire trouver sa propre voie. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.